Et maintenant, un bon boîte de casse.
Bonjour à toutes et tous, je suis en compagnie de Philippe Kayertz, monsieur boîte de casse. Pourquoi monsieur boîte de casse? Parce que depuis le mois de janvier, c'est le boîte de casse le plus écouté. Pourquoi? Parce qu'il y a une actualité assez chaude puisqu'on parle de Small World. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On a eu l'occasion de se rencontrer le 26 juin 2008 où tu parlais d'une sortie dont on ne pouvait pas trop parler, etc. Mais effectivement, je pense qu'il s'agissait du fameux Small World. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parlait le 26 juin?
Oui, tout à fait. Mais comme c'était encore en cours parlé, c'est par principe, on ne parle pas de...
Bien sûr. Mais alors, justement... Imaginons qu'on ne connaît pas le jeu Vinci, d'où le jeu vient. Je pense que c'est acquis maintenant. Le Small World est une nouvelle version de Vinci. On peut juste passer en 10 secondes sur l'évolution entre Vinci et Small World, et puis on va détailler le matériel et voir exactement comment est-ce qu'on joue à Small World. Donc, entre Vinci et Small World, quelle est la différence?
Disons que le système de base est le même. On reçoit un peuple avec un certain nombre de pions qui partira en déclin après quelques tours, on prendra un nouveau peuple. Je suis vraiment reparti de la base, et puis j'ai inventé pas mal de nouveaux pouvoirs, le thème a changé, et de manière générale j'essaie de le rendre plus fluide, qu'on puisse se concentrer sur les décisions importantes et pas sur le calcul.
Oui, c'est ça. Parce que Vinci était quand même connu comme un jeu assez complexe, orienté gamer, tandis que Small World, on va dire qu'on s'oriente plus vers le familial ou pas?
Disons que j'espère que ça conviendra aux deux. Le système est le même, donc à mon avis les joueurs vont s'y retrouver. Moi je l'appelais Fancy en fait pendant toute la durée du travail, donc c'était une contraction de Vinci de Fantasy. L'idée d'en faire une version Fantasy est arrivée assez tôt, mais cette version-ci est relativement récente. J'ai eu d'autres versions qui étaient finalement plus complexes que Vinci et encore plus calculoïdes, et donc je les ai laissées tomber. Et ceci j'ai repris il y a quelque chose comme un an et demi, deux ans. Mais plutôt de repartir de Vinci, je suis vraiment reparti de la base. Ouais. Et en construisant quelque chose autour, c'était plus simple.
Et donc tu dis c'est un prototype qui a voyagé, et que tu sortais de temps en temps, et puis tout d'un coup c'est arrivé chez Days of Wonder?
Oui, un peu par hasard. C'était un week-end de jeu, les rencontres ludopathiques de Bruno Feduti. J'avais sorti le proto comme ça pour faire une partie, puis il y avait des gens de DS qui étaient là, quelqu'un leur en a parlé le lendemain, puis ils sont partis avec le proto, et voilà.
Et c'était chose faite. Et entre ce moment où ils sont repartis de chez Bruno Feduti avec le proto et la sortie, on parle de combien de temps?
Ça doit être en avril, mai, je ne sais plus la date exacte.
Et donc le côté fantasy, là, c'était acquis, c'était le thème que tu voulais mettre dessus?
Oui, c'est sur ce thème-là que j'ai travaillé depuis le début. C'était pour un peu changer du contexte historique, mais...
Donc quand on dit fantasy, ben, y a des créatures un peu spéciales, c'est-à-dire?
Oh, y a pas mal de classiques, hein, les squelettes, les zombies, y a des hommes, des nains, des elfes, des magiciens, je sais pas.
Et donc chacun va créer chacune de ces personnages, de ces types de personnages, vont se déplacer sur le jeu sous forme de civilisation qui va grandir ou décliner?
Oui, c'est ça. Donc chacun commence avec un peuple, on choisit. Le peuple a un pouvoir en lui-même, et puis il y a un second pouvoir aléatoire qui est accolé. Donc il y a 14 peuples et 20 pouvoirs. Donc ça fait quelques combinaisons possibles.
Alors, allons-y. Le jeu en lui-même, on a un plateau avec un monde imaginaire, un monde fantaisiste, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme matériel à notre disposition, et comment est-ce qu'on démarre une partie?
En fait, il y a quatre plateaux, deux plateaux recto-verso, pour changer la taille du plateau d'après le nombre de joueurs. Le jeu se joue de 2 à 5 ici. Une fois qu'on a choisi le plateau, il y a une série de peuples à mettre en correspondance avec leurs pouvoirs. On a toujours 6 à la disposition, de façon à avoir un peu de choix. Il y a un système de paiement. Les premiers de la série sont gratuits, puis sinon il faut payer en points de victoire.
Ça veut dire quoi? Que chacun choisisse sa civilisation, ou qu'il faut... Donc tu dis qu'il faut payer pour avoir accès à cette civilisation-là?
À son tour, on choisit son peuple. Et donc, il y a une série de 6. Si je veux le premier, dans ce cas-ci, c'est des hommes berserk, je le prends gratuitement. Si je trouve qu'il y en a un plus intéressant plus loin dans la liste, alors je dois payer.
Voilà, c'est ça. Donc la première étape, c'est choisir sa civilisation, qui a été... chaque civilisation a été au départ accolée à un pouvoir spécifique. On choisit cette civilisation, on la met chez soi, et puis démarre le jeu.
Et puis directement, donc le premier tour, c'est choisir sa civilisation, rentrer sur le plateau. Il y aura des pions déjà présents sur le plateau, donc qui freinent un peu les conquêtes. Des pions de peuple neutre qui sont déjà sur le plateau, simplement. Ils ne vont pas y rester longtemps, mais ils freinent un peu la conquête.
Okay. Mais donc le mécanisme clair du jeu, c'est d'amener ces civilisations dans les différentes régions du plateau, et puis qu'est-ce qui va se passer avec les régions adjacentes ?
Donc on conquiert une première région, puis on conquiert les régions adjacentes. Le système fait qu'on a un certain nombre de pions pour toute la durée de vie du peuple, donc on n'en reçoit pas de nouveaux, sauf exception. Et chaque zone coûte un certain nombre de pions. Il n'y a pas de hasard, a priori.
Donc pour la première zone où on va venir placer sa civilisation, comment est-ce qu'on va la choisir ?
Ah, c'est au choix, elle doit être sur le bord du plateau, on peut traverser la mer. Mais... Donc, si c'est une zone vide, je dois y placer deux pions, si c'est une montagne, un troisième. Si quelqu'un l'occupe, un pion chaque fois de plus par pion qui occupe déjà la zone.
Et c'est comme ça que va se résoudre la conquête d'une région supplémentaire ? C'est sur une majorité sur une supériorité entre les deux civilisations ?
Oui, c'est ça, il y a un coût à payer. Donc c'est deux pour une zone vide ou trois pour une montagne, plus un par pion qui est présent. Donc c'est vrai qu'au début, les peuples qui n'ont que quelques zones sont bien regroupés, ils sont bien défendus. Ouais. Et puis ben, plus ils prennent de zones, moins ils sont... Ce qui est nécessaire pour pas, parce que chaque zone rapporte un point... Mm-hmm. Et bien plus ils ont de zones, moins ils ont une défense par zone, et donc ils vont commencer à perdre des pions, et c'est ça qui entraîne le déclin. On perd des pions, mais on n'en gagne pas.
C'est ça, parce que, donc, comme on l'a dit au départ, on a un nombre maximum de pions représentant sa civilisation. Ouais, le nombre de pions par zone va évidemment diminuer, et donc là où on va arriver face à des zones où il y a le plus de pions, ben, elles vont se faire décimer petit à petit, quoi.
Ouais, c'est ça, un nouvel attaquant va évidemment prendre les zones les moins chères, probablement. Ouais,
Le principe de Vinci, c'est de finalement décider qu'une civilisation qu'on avait fait grandir, eh bien, on va finalement décider qu'elle décline pour en commencer une autre.
Oui, parce que celle qui décline, simplement elle ne s'étend plus, mais elle reste sur le plateau et elle continue à rapporter des points. On marque des points avec deux civilisations. Maintenant, si celle-là commence à disparaître, on pourrait avoir envie de l'abandonner pour en prendre une troisième.
Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de marquer un maximum de points ou c'est d'avoir un maximum de régions à son actif ?
Chaque région rapporte à la base un point, donc c'est, effectivement il faut s'étendre le plus possible. Mais certains pouvoirs donnent plus de valeur à certaines régions, soit un avantage stratégique parce qu'elles sont plus faciles à prendre, soit il y a les marchands, eux, c'est toutes les zones leur valent un point de plus. S'il y aura par exemple des scavens des forêts, les forêts leur rapporteront deux points plutôt qu'un. Donc les intérêts des civilisations ne sont pas tous les mêmes, même s'il y a une base de un point par zone.
D'accord. Le jeu dure combien de temps, plus ou moins ?
C'est variable, je dirais une heure et demie. Ça peut être une heure si on est moins nombreux ou si on connaît bien le jeu. Il y a quatre plateaux en tout, donc un pour deux joueurs, un pour trois joueurs, un pour quatre et un pour cinq.
Ah oui, ok, d'accord.
Donc c'est à chaque fois, ok. Et la différence, c'est le nombre de régions en fonction. C'est le nombre de régions, le nombre de terrains disponibles.
Oui, c'est ça, c'est la taille. Hein. Il faut que ça soit suffisamment serré, ni trop ni trop peu. Si on a toute la place, il n'y a plus d'interaction. Si c'est trop petit, c'est le massacre tout le temps.
Et donc typiquement, à son tour de jeu, un joueur a la possibilité de faire quoi ?
Donc, si c'est un tour... Au premier tour, c'est choisir un peuple et puis prendre quelques régions et puis marquer ses points. Après ça, c'est prendre les pions qui ne sont pas utilisés. Donc, si j'ai pris trois régions au premier tour, par exemple, à mon deuxième tour, je laisse un pion dans chaque région et tous les autres sont disponibles pour de nouvelles conquêtes. Sinon, l'option en début de chaque tour, c'est est-ce que je continue ou est-ce que je passe en déclin ? Si je passe en déclin, le tour est terminé. Je laisse un seul pion par zone. Les pions ont une phase déclin pour indiquer. Ouais. Donc ils sont assez peu défendus, c'est juste une zone avec un pion. Et au tour suivant, je reviens avec un nouveau peuple.
C'est ça.
Et donc ça veut dire qu'il y en a toujours 6 disponibles à côté du plateau. Et donc quand on décide de reprendre une nouvelle civilisation, on prend soit le premier, soit on paye pour voir ceux qui sont plus bas. Enfin, qui ne sont pas en première position dans la liste.
Oui, c'est ça. Dès qu'un joueur a choisi, on décale les autres peuples et il y a un nouveau qui vient se mettre dans la liste. Et alors, les points qui ont été payés par des joueurs qui ne voulaient pas un peuple sont sur le peuple. Et donc, celui qui choisit celui-là plus tard, il reçoit ses points en plus. Ouais. Ça permet d'équilibrer des peuples qui seraient plus des combinaisons qui seraient plus ou moins fortes.
Ok, donc à son tour, on place les tuiles sur les différentes régions. Et puis, une fois que c'est fini, on les reprend et on en laisse une dans chaque...
Au tour suivant, on les reprend.
Ouais.
Oui, parce que pendant ce temps, il y a les autres joueurs qui vont jouer, donc ces pions vont servir à la défense. D'ailleurs, juste avant, après avoir fait les conquêtes, on peut un peu les redisposer comme on veut.
Ah oui.
Si on veut faire un mur d'un côté parce qu'on a un voisin agressif, ou si on veut protéger plus certaines zones que d'autres.
C'est ça.
Donc quand on revient à son tour, alors on récupère toutes les tuiles sauf une par région.
Oui, c'est ça. On peut abandonner des régions si on veut plus de pions, mais la région est perdue.
Ouais,
c'est, okay. C'est pas intéressant.
Non. Et je vois qu'il y a un dé, c'est un peu étonnant ça pour Vinci, non ?
Oui, oui, ce n'est pas... ce n'est pas une hérésie. Non, c'est simplement pour éviter le calcul. La toute dernière conquête, on peut lancer un dé et faire une attaque avec moins de pions que ce qui est nécessaire.
Et le dé représente quoi ?
Des renforts virtuels. En fait, on ne reçoit pas des pions en plus, mais il y a trois phases vides, et puis c'est 1, 2, 3. Mmh. Okay. Donc si je veux, si voilà, il me reste un seul pion, ben, je peux quand même essayer une conquête.
Ça
passe ou ça casse. Okay. Ça évite les calculs de fin de tour et des comportements un peu parfois bizarres où on prenait des zones mieux défendues simplement pour optimiser son coût.
Ouais,
mais ce n'était pas naturel, ça. Ouais.
Chaque région occupée rapporte un point. C'est représenté comment ces points de victoire ?
Ce sont des pions de victoire qu'on met devant soi cachés. Ça, c'est une différence par rapport à Vinci. Mm-hmm. De nouveau, pour éviter les calculs de fin de partie, les scores sont cachés. Maintenant, ceux qui préfèrent l'ancien système pourront toujours le faire. Je sais pas.
Bien, deux, trois conseils tactiques de l'auteur. Il y a des choses à faire par rapport à certaines situations.
Mais disons, en début de partie, il ne faut pas oublier que dès qu'on a un peuple en déclin, on marque des points avec deux peuples. Donc souvent, en début de partie, c'est conseillé d'avoir un peuple qui s'étalera assez vite et qui pourra partir assez vite en déclin.
Donc, vite prendre une grande empreinte sur le plateau, et pendant qu'il décline région par région, on marque quand même des points, c'est ça l'idée.
Oui, c'est ça. Donc dès qu'on a un deuxième peuple, on a un peuple en déclin qui marque quand même encore un point par région, même si la plupart du temps a perdu ses pouvoirs, plus un deuxième qui continue à s'étendre. Donc c'est marqué souvent aux premières parties, c'est au moment où on fait le premier déclin, tout d'un coup, les gens se rendent compte, hein, mais ça fait vraiment beaucoup de points. Ça. Et donc, peut-être, oui, il y a une tendance, en tout cas, prendre un peuple qui s'étendra assez vite. Ou alors, il y a des peuples qui sont assez bien au début, mais qui prennent du temps pour s'installer, comme les squelettes qui reçoivent des nouveaux pions. C'est une exception aux règles. La plupart des pouvoirs sont des exceptions aux règles. Donc les squelettes ont des nouveaux pions chaque fois qu'ils prennent deux zones. Donc ça, c'est un peuple qui est de longue haleine, plutôt.
Oui, c'est ça.
C'est le seul peuple qui s'étend, qui a la capacité de s'étendre un peu plus, alors.
Oh, il y en a un deuxième encore. Au niveau stratégique, il y a les montagnes, qui sont plus difficiles à prendre, parce qu'il faut une base de 3. Ouais. C'est indiqué par un pion montagne, d'ailleurs, de façon à avoir, de pouvoir facilement compter. Le prix d'une zone, c'est 2 plus 1 par n'importe quoi qui s'y trouve. Ça peut être une montagne, une forteresse...
Les tritons, oui, par exemple, qu'est-ce qu'ils font ?
Donc les tritons eux-mêmes, ils conquièrent plus facilement toutes les régions côtières. Donc il y a deux côtes, en fait, plus un lac central. C'est la même chose sur tous les plateaux. Et donc ça leur demande chaque fois un pion de moins de conquérir ces zones-là.
Bon, ben, je ne sais pas, moi, bonne partie, Philippe Caillard. Et à très bientôt.
Merci.